Maurice Nadeau.
Quel besoin avait Svevo d'écrire? C'est une question qu'on peut se poser à propos de chaque écrivain, bien sûr. C'est dans ce rapport entre la vie et l'écriture qu'il me semble que se situe Svevo.
Ça peut pas faire de mal.
Et je vois dans le voyage sentimental, la vie doit être écrite. Chacun devrait écrire sa vie. Elle deviendrait soit plus claire, soit plus obscure. Mais alors elle se répétera, se corrigera, se cristallisera. Ce qui m'a donné la réponse à la question que je me posais.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
La maladie est une conviction. Je ne me rappellerai pas grand-chose de celle de mes 20 ans si je ne l'avais à l'époque décrite à un médecin. J'étais allé chez ce médecin parce qu'on m'avait dit qu'il guérissait les maladies nerveuses à l'électricité. Je pensais pouvoir puiser dans l'électricité la force suffisante pour cesser de fumer. Ce docteur avait un gros ventre et sa respiration asthmatique accompagnait les grésillements de la machine électrique mise en branle dès la première séance. Je fus déçu, car j'avais espéré que le docteur en m'étudiant découvrirait le poison qui corrompait mon sang. Mais il me jugea de constitution saine, et comme je m'étais plaint de mal digérer et de mal dormir, il supposa que mon estomac manquait d'acide et que chez moi les mouvements péristaltiques, il répéta tellement ce mot que je ne l'ai pas oublié, étaient ralentis. Là-dessus, il m'ordonna un certain acide, dont les effets furent désastreux car je souffre depuis lors d'une acidité excessive. Voici la description de ma maladie telle que je la fis au docteur. Je ne peux pas travailler. Et les rares fois où je vais au lit de bonne heure, je reste éveillé jusqu'aux premières cloches du matin. C'est pourquoi j'hésite entre le droit et la chimie. Ce sont deux disciplines qui exigent un travail qui commence à heure fixe et je ne sais à quelle heure je pourrai être levé. L'électricité guérit toutes les insomnies, déclarait-il, fixant les yeux sur son cadran au lieu de regarder son malade. J'en vins à causer avec lui, comme s'il avait pu comprendre la psychanalyse dont j'étais un modeste précurseur. Je lui racontais mes malheurs avec les femmes. Une seule ne me suffisait pas, et plusieurs pas davantage. Je les désirais toutes. Dans la rue, mon agitation était effroyable. Toutes les femmes qui passaient m'appartenaient. Je les dévisageais avec insolence. En pensée, je les déshabillais complètement, les bottines exceptées. Je les emportais dans mes bras. Quand je les abandonnais, elles n'avaient plus rien de secret pour moi. Vaine sincérité, vain discours. Le docteur haletait. « J'espère bien que mes applications électriques ne vous guériront pas de cette maladie-là. Il ne manquerait plus que ça. Je ne toucherai plus une bobine de Ruhmkorff si je redoutais de tels effets. » Je hurlais. « Mon excitation n'est pas saine. Elle vient du poison qui enflamme mon sang. » Le docteur murmurait avec tristesse. « Personne n'est content de son sort. » Italo Svevo ausculte avec une rare précision la conscience de Zeno, fumeur invétéré aussi obsédé par la maladie que par les femmes. C'est donc en toute logique que nous faisons connaissance avec Zeno en poussant la porte d'un cabinet médical. De médecin, de douleur, de désir et de frustration, il est question tout au long de ce récit qui a pour cadre la psychanalyse, puisque Zeno, le narrateur, hypochondriaque et névrosé hors pair, entreprend d'écrire son autobiographie sur les recommandations de son analyste. Mais si la conscience de Zeno joue avec les codes de la psychanalyse, c'est de manière distanciée et ironique. Et ce texte d'avant-garde, dans lequel le narrateur s'examine tour à tour avec lucidité et mauvaise foi, est à la fois plein d'humour et totalement désespéré. Né à Trieste en 1861, Arturo Schmidt, de son vrai nom, est un homme de la dualité, comme le signale son surnom, Italo Svevo, qui signifie « italien souabe », entendez « italien allemand ». Homme de l'entre-deux, jamais tout à fait à sa place, il se construit entre deux langues, deux religions. Juif de naissance, il épouse le catholicisme de sa femme, et surtout entre deux activités diamétralement opposées, l'écriture et les affaires. Et c'est bien là le drame de sa vie. Il est né pour écrire, mais se trouve contraint de travailler dans une banque suite à l'insuccès de ses deux premiers romans. De là, sans doute, résulte un trouble et une agitation intérieure dont Italo Svevo a fait la matière féconde de son chef-d'œuvre, La conscience de Zeno, paru en 1923, 5 années seulement après sa mort dans un accident de voiture. C'est en grande partie à l'enthousiasme de James Joyce, jeune professeur d'anglais de Svevo, que l'on doit la diffusion de ce livre majeur, publié après 24 années de silence et devenu un incontournable de la littérature, traduit et lu dans le monde entier. Découvrons donc l'itinéraire de Zeno Cosini, anti-héros pathétique qui nous invite à regarder à la loupe, pour le meilleur et pour en rire, les tourments de son être. Voyons comment Zeno entame le récit de sa vie, laissant remonter à sa conscience de lointains souvenirs d'enfance. Sur les recommandations de son psychanalyste, le narrateur, qui approche de la soixantaine, se met à écrire le récit de sa vie afin de, je cite, « se voir tout entier ». L'un des premiers souvenirs qui lui vient est lié au tabac. Dès l'enfance, Zeno fume de manière frénétique et en cachette, ce qui fait de lui un dissimulateur précoce. Devenu adulte, la cigarette est une obsession dont il n'a de cesse de vouloir se libérer, mais qui finit étrangement par donner un sens à sa vie. Je me rappelle avoir fumé beaucoup, caché dans tous les endroits possibles. À cause du grand dégoût physique qui le suivit, je me rappelle un séjour d'une demi-heure dans une cave obscure avec deux autres gamins dont je ne retrouve dans ma mémoire que les vêtements enfantins, deux paires de culottes courtes qui tiennent debout parce qu'il y a eu dedans deux corps que le temps a effacés. Nous avions une grande quantité de cigarettes et nous voulions voir qui en fumerait le plus en 30 minutes. Je sortis vainqueur de l'épreuve et dissimulai héroïquement le malaise que cette étrange gageure m'avait procuré. À cette époque, j'ignorais si j'aimais ou détestais les cigarettes, leur saveur et l'état où me mettait la nicotine. Quand j'appris que je détestais tout cela, ce fut bien pis. Je l'appris vers ma 20e année. Vers cet âge, je souffris durant plusieurs semaines d'un violent mal de gorge accompagné de fièvre. Le médecin m'ordonna de garder le lit et de m'abstenir de fumer. Interdiction absolue. Je me rappelle ce mot « absolu ». Il m'avait frappé. Un vide énorme et rien pour résister à la pression formidable qui se produit tout de suite autour d'un vide. Quand le docteur fut parti, mon père, ma mère était morte depuis de longues années déjà, me tint un moment compagnie, un gros cigare aux lèvres. En me quittant, il passa doucement sa main sur mon front brûlant et me dit « défense de fumer, hein ?» Une affreuse inquiétude s'empara de moi. Je pensais, puisque tout cela me fait du mal, je ne fumerai plus. Mais d'abord, je veux fumer une dernière fois. J'allumai une cigarette et mon inquiétude s'envola. Malgré la fièvre qui montait et le tison ardent qui à chaque bouffée brûlait mes amygdales, je fumai la cigarette jusqu'au bout, avec le soin de l'homme qui accomplit un vœu. Et malgré d'atroces souffrances, j'en fumai beaucoup d'autres durant ma maladie. Mon père allait et venait toujours le cigare aux lèvres et me disait « Très bien, quelques jours encore sans fumer et te voilà guéri. » Cette phrase suffisait à me faire souhaiter qu'il me laissât tout de suite, oh tout de suite, et que je puisse me jeter sur une cigarette. Je faisais même semblant de dormir pour le pousser à s'en aller plus vite. Cette maladie me procura le deuxième de mes tourments, l'effort pour me libérer du premier. Mes journées finirent par être remplies de cigarettes et de décisions de ne plus fumer, et il en est encore ainsi aujourd'hui. La ronde des dernières cigarettes qui a commencé quand j'avais 20 ans n'a pas encore achevé de tourner. Ma décision est moins énergique, ma faiblesse trouve dans mon vieux cœur plus d'indulgence. Quand on est vieux, on sourit de la vie et de tout ce qu'elle contient. Je puis même dire que depuis quelque temps, je fume bien des cigarettes qui ne sont pas les dernières. À présent que je suis là, en train de m'analyser, un doute m'assaille. Peut-être n'ai-je tant aimé les cigarettes que pour pouvoir rejeter sur elles la faute de mon incapacité. Qui sait si, cessant de fumer, je serais devenu l'homme idéal et fort que j'espérais. Ce fut peut-être ce doute qui me cloua à mon vice. C'est une façon commode de vivre que de se croire grand d'une grandeur latente. À 57 ans, Zeno a atteint l'âge fatidique auquel il perdit son père. Il se souvient de ce terrible moment. Quittons le présent du narrateur, proche de la soixantaine et obsédé par la perspective de sa mort, pour remonter avec lui le fil du temps. Après un double cursus de droit et de chimie, Zeno, âgé de 30 ans, est un dilettante qui partage son temps entre ses amis et ses conquêtes féminines. Un soir de mars, le jeune homme rentre plus tard que de coutume et découvre son père éveillé, l'air solennel, mais en proie à une grande fatigue. Dans la nuit, Zeno est réveillé par des râles alarmants. Son père vient d'être frappé par un œdème cérébral. Pendant plusieurs jours, Zeno assiste impuissant à l'agonie de son père, dont la conscience s'est enfuie avant qu'il ne puisse lui témoigner sa tendresse. Malgré la présence à ses côtés du docteur Koprosik, de son infirmier et de Maria, la vieille domestique, Zeno se sent plus seul que jamais. voyons avec quelle sincérité le narrateur ravive les sentiments complexes qui l'assaillent alors. Je dois avouer, hélas, que mon cœur abritait au lit de mort de mon père des sentiments de rancune qui, par leur étrange alliage avec elle, falsifiaient ma douleur. J'en voulais au docteur Koprosik, qui semblait indifférent à la souffrance de son patient comme à la mienne. Je m'en voulais à moi-même de ne pas avoir le courage de reprendre la discussion avec lui, de lui tenir tête, de lui dire que je n'aurais pas donné un radis de toute sa science et que je souhaitais à mon père la mort, pourvu que la souffrance lui fût épargnée. Je finis par en vouloir à mon père lui-même. Quiconque a fait l'expérience de passer des jours et des semaines auprès d'un malade inquiet me comprendra. Impropre au métier d'infirmier, j'étais là, spectateur passif de ce que faisaient les autres. Et puis j'aurais eu besoin de repos pour m'éclaircir les idées, pour mettre un peu d'ordre dans ma douleur pour mon père et pour moi, et peut-être aussi pour en goûter l'amertume. Or j'avais à batailler sans cesse contre mon père pour lui faire avaler des médicaments et pour l'empêcher de quitter sa chambre. La lutte engendre toujours la rancœur. Je pleurais beaucoup alors, mais plutôt sur moi-même que sur le pauvre malade qui, sans repos, parcourait sa chambre. Une nuit, las et abattu, je tenais compagnie à l'infirmier dans la chambre de mon père qui semblait plus agité que jamais. Ce fut alors que se déroula la scène terrible que je n'oublierai jamais et qui étendit son ombre immense sur tous mes élans de courage, sur toutes mes joies. Pour en oublier la douleur, il a fallu que tous mes sentiments fussent émoussés par l'âge. L'infirmier me dit « Serait bien si nous réussissions à le maintenir couché. Le docteur y attache tant d'importance. » Jusqu'à ce moment, j'étais resté étendu sur le sofa. Je me levais et m'approchais du lit où le malade, plus oppressé que jamais, s'était couché. Ma résolution était prise. Pour obéir aux ordres du médecin, j'obligeais mon père à prendre au moins une demi-heure de repos. N'était-ce pas là mon devoir ? Aussitôt, mon père tenta de se retourner vers le bord du lit afin d'échapper à la pression que j'exerçais et de se lever. D'une main vigoureuse appuyée sur son épaule, je l'en empêchais, tandis que d'une voix forte et impérieuse, je lui ordonnais de ne pas bouger. Pendant un instant terrorisé, il obéit, puis il s'écria « Je meurs !» et il se dressa. Épouvanté à mon tour par son cri, je laissai mon bras se détendre, c'est pourquoi il put s'asseoir au bord du lit, juste en face de moi. Je pense que sa colère s'accrut alors du fait qu'il me trouva devant lui pour le gêner, ne fût-ce qu'une seconde de plus, dans ses mouvements. Il dut avoir l'impression qu'en me tenant debout devant lui, assis, je lui ôtais jusqu'à l'air dont il avait besoin. Au prix d'un effort suprême, il arriva à se mettre debout. Il leva la main le plus haut qu'il put, comme s'il s'était rendu compte qu'il ne pouvait lui communiquer d'autre force que celle de son propre poids, et il la laissa retomber sur ma joue. Puis il glissa sur le lit, et du lit sur le parquet, mort. Je ne savais pas qu'il était mort. Mais mon cœur se contracta douloureusement sous le coup de cette punition que, mourant, il avait voulu m'infliger. Carlo m'aida à le replacer sur son lit. En pleurs, tout comme un enfant puni, je lui criai à l'oreille « Ce n'est pas ma faute. C'est ce maudit docteur qui voulait que tu restes allongé. » C'était un mensonge. J'y ajoutais toujours comme un enfant la promesse de ne plus recommencer. « Je te laisserai aller et venir comme tu voudras. » L'infirmier dit « Il est mort. On dut employer la force pour me faire quitter la chambre. Il était mort et je ne pouvais plus lui prouver mon innocence.
In questo preciso momento ti stringerà fra le sue braccia e mentre nascondi la faccia una lacrima ti bacerà per me in questo preciso momento. Ti renderai conto da sola che il tempo in realtà non consola, ma ti grida forte la sua verità. sconosciuta tu resta la strada. Si sgretola davanti agli occhi tuoi. Conosco l'uscita, tu resta la strada.
Feuilletons l'autobiographie de Zeno en quête de souvenirs plus joyeux et suivons-le à la rencontre des sœurs Malfenti. Orphelin, Zeno se rapproche de Giovanni Malfenti, un homme d'affaires triestin en qui il voit un père de substitution. Ce dernier lui présente alors ses quatre filles, Augusta, Ada, Alberta et Anna, parmi lesquelles il est décidé à trouver sa future femme. Dans le salon élégant et vaste, je trouvais Augusta, seule, lisant près d'une fenêtre. Son père avait annoncé ma visite et je n'eus pas à me présenter. Elle me tendit la main et courut appeler sa mère. Voici que, sur les quatre jeunes filles à la semblable initiale, il y en avait déjà une de moins en ce qui me concernait. Comment pouvait-on dire qu'elle était jolie ? Ce qui frappait d'abord chez elle, c'était un strabisme si fort que, repensant à elle quand je ne l'avais pas vue pendant quelque temps, longtemps dans ma pensée, il la personnifiait tout entière. Ses cheveux, pas très abondants, étaient blonds, mais d'un blond éteint, sans lumière. Sa silhouette n'était pas vilaine, peut-être un peu épaisse pour son âge. Restée seule dans le salon, je pensais, si les trois autres lui ressemblent. Un instant plus tard, le nombre des fiancées possibles se réduisit à deux. L'une d'elles, qui entra avec sa mère, n'avait que 8 ans. L'accueil de Madame Malfenti fut très aimable. Elle s'excusa d'être obligée de garder Anna auprès d'elle, faute d'avoir quelqu'un à qui la confier. La conversation, tout d'abord, manqua un peu d'entrain. La signora, comme toutes les personnes bien élevées, était plutôt ennuyeuse lors d'une première rencontre. Enfin parurent Ada et Alberta. Je respirais. Elles étaient vraiment belles toutes deux et apportaient dans ce salon la lumière qui jusqu'alors y manquait. Toutes deux brunes, grandes et élancées, mais très différentes l'une de l'autre. Mon choix n'était pas difficile. Alberta n'avait alors pas 17 ans. Quoique brune, elle avait comme sa mère un teint frais et rose qui faisait paraître encore plus jeune son visage d'enfant. Ada, au contraire, était une vraie femme, avec des yeux profonds et des cheveux lourds et bouclés, mais disposés avec une grâce sévère qui jetait sur sa figure très blanche des reflets bleutés. Il est difficile de remonter au premier et humble début d'un amour devenu par la suite d'une violence extrême, mais je suis sûr de n'avoir pas eu pour Ada ce qu'on appelle le coup de foudre. Il semblerait qu'Ada m'eût séduit d'abord, non par sa beauté et sa grâce, mais bien par son sérieux, son énergie, en un mot par les qualités mêmes, un peu atténuées et adoucies, que j'admirais chez son père. Il m'est difficile de raconter la cour que je lui fis ensuite pendant des mois. J'ai employé une longue période de ma vie à m'efforcer d'oublier cette absurde aventure dont la pensée me laisse rouge de honte et amène à mes lèvres un cri de protestation. Cet imbécile, c'était donc moi. Et qui d'autre? Si encore je m'étais conduit de la sorte 10 années plus tôt, à 20 ans, mais avoir été affligé d'une telle sottise uniquement parce que j'avais décidé de me marier, cela me semble vraiment injuste. Moi qui avais déjà l'expérience de bien des aventures amoureuses, menées hardiment, avec effronterie parfois, voilà que j'étais redevenu le garçonnet timide dont toute l'audace est d'effleurer la main de la personne aimée, à la rigueur sans qu'elle s'en aperçoive, pour adorer ensuite sa propre main qui avait eu l'honneur d'un tel contact. Cette aventure qui fut la plus pure de ma vie, aujourd'hui que je suis vieux, je me la rappelle encore comme la plus honteuse. C'était une chose de propos hors de saison, comme de voir un garçon de 10 ans se pendre au sein de sa nourrice. C'est dégoûtant. Et comment expliquer ma longue hésitation? Cette impossibilité de parler clairement à Ada, de lui crier « Décide-toi, veux-tu de moi, oui ou non ?» J'arrivais chez les malfintis mal réveillés de mes rêves. Je comptais les marches qui conduisaient à leur étage en pensant « Si c'est un nombre impair, elle m'aime. » C'était toujours un nombre impair puisqu'il y avait 43 marches. Je franchissais la porte avec un sentiment de profonde certitude et je finissais toujours par différer l'heure des aveux. À la place d'Ada, ce bonnet de 30 ans, je l'aurais reçu à coups de pied au derrière. Voyons comment Zénon, enfin décidé à faire sa demande en mariage à Ada, est coupé net dans son élan. Pendant des mois, Zéno se rend chaque jour dans la demeure des Malfantis sans obtenir en retour un encouragement de la part d'Ada. Et pour couronner le tout, c'est Augusta, l'aînée gratifiée d'un fort strabisme, qui finit par s'éprendre de lui. Face aux troubles que sème sa présence dans la maisonnée, la mère Malfanti lui demande de bien vouloir espacer ses visites. Abattu, notre homme se retient d'aller voir Ada pendant 5 jours, qui lui paraissent interminables. Le 6e jour, c'est dans un état fébrile qu'il décide d'attendre Ada à la sortie de l'église. C'était un dimanche plein de soleil, et tout en marchant, je pensais que peut-être allait m'attendre en ville ce fait nouveau que j'espérais, l'amour d'Ada. Il n'en fut rien, mais j'en eus un instant l'illusion. Je me trouvais nez à nez avec Ada. Elle était seule. Je chancelai et ma gorge se serra. Elle me salua comme si nous nous étions quittés depuis 5 minutes. « Me permettez-vous de faire quelques pas avec vous ?» lui demandai-je. Elle accepta avec un sourire. Elle ajouta qu'elle rentrait tout droit chez elle et qu'elle était un peu pressée. Je n'avais donc à ma disposition que 5 minutes et je perdis une partie de ce temps à calculer si ce serait suffisant pour dire ce que j'avais à dire. Mieux valait me taire que de ne pas aller jusqu'au bout de mon discours. Ma confusion s'augmentait du fait que dans notre ville, à cette époque, se laisser accompagner dans la rue par un jeune homme, c'était déjà, pour une demoiselle, se compromettre. Elle y consentait. Ne pouvais-je me contenter de cette faveur? Chemin faisant, je la regardais, m'efforçant de retrouver mon amour perdu dans la colère et le soupçon. Elle m'apparaissait petite et grande à la fois, dans l'harmonie de ses lignes. À côté d'elle, réellement présente, les fantômes de mes rêves accouraient en foule. C'était là ma façon d'éprouver du désir, et j'y retournais avec une joie intense. Mais soudain, dans notre dos, j'entendis cet appel hésitant. « Vous permettez, signorina ?» Je me retournai indigné. Qui donc osait interrompre mes explications avant qu'elles n'aient commencé ? Un jeune homme imberbe, brun et pâle, regardait Ada d'un œil anxieux. Je la regardais à mon tour avec le fol espoir qu'elle invoquerait ma protection. Un signe eût suffi, je me serais jeté sur cet individu pour lui demander raison de son audace. Que ne m'en a-t-elle donné l'ordre? Je suis sûr qu'un acte de force brutale m'aurait guéri de tous mes maux. Mais Ada ne fit pas ce signe. Avec un sourire spontané qui modifia légèrement la ligne de ses joues et de ses lèvres et la lueur de ses yeux, elle lui tendit la main. « Signor Guido !» Ce prénom me fit mal. Un instant plus tôt, elle m'avait appelé par mon nom de famille. J'examinai ce signor Guido. Il était vêtu avec une élégance recherchée. De son poing ganté, il tenait une canne à très long manche d'ivoire que je n'aurais jamais portée même si on m'avait payé pour le faire. La présentation eut lieu. Je souriais, moi aussi. Sur le visage d'Ada errait comme un frisson d'une eau limpide effleurée par une brise légère. Sur le mien, c'était plutôt comme si on avait jeté un caillou dans une mare. Il s'appelait Guido Speyer. Je le regardais pour mieux entendre ce qu'il disait. C'était un très beau jeune homme. Ses lèvres entrouvertes laissaient voir des dents blanches et parfaites. Son œil était vif, plein d'expression. Et quand il ôta son chapeau, je pus constater que ses cheveux noirs et légèrement bouclés couvraient toute la surface qui leur était destinée par la nature, tandis que le front chez moi envahissait une grande partie de la tête. Ada n'aurait pas été là que je l'aurais quand même détesté. Mais la haine que j'éprouvais était une souffrance. Pour l'atténuer un peu, je me disais « il est trop jeune pour elle ». J'eus aussi la pensée que la familiarité aimable d'Ada à son égard résultait d'un ordre de son père. Guido était peut-être un puissant homme d'affaires que Giovanni tenait à se concilier. Je lui demandais « Vous vous fixez à Trieste ?» Il me répondit qu'il y était depuis un mois et qu'il fondait une maison de commerce. Je respirais, je pouvais avoir deviné juste. Je contemplais Ada et m'efforçais d'oublier le reste du monde, y compris cet autre personnage qui nous accompagnait. Ada marchait entre nous deux. Elle avait sur le visage stéréotypé une vague expression de bonheur, presque un sourire. Ne faisant pas dans la demi-mesure, Zeno se lance dans une triple demande en mariage. Invité à participer à une séance de spiritisme menée par le fameux Guido chez les Malfanti, Zeno s'efforce de ridiculiser son rival, mais ne réussit qu'à s'attirer les foudres de la belle Ada. Seul avec elle pour quelques instants, il lui demande enfin sa main, mais il se voit brutalement éconduit. Dans un geste insensé, il demande alors la main de sa sœur cadette, la jolie Alberta, âgée seulement de 17 ans. Cette dernière, se trouvant bien trop jeune pour se marier, décline à son tour son offre. C'est alors qu'il se tourne vers Augusta, l'aînée des deux sœurs, qui lui déplaisait tant au départ. Je regardais autour de moi pour chercher Augusta. Elle sortait dans le couloir, portant sur un plateau un verre à moitié vide. Je la suivis d'un pas rapide et l'appelai par son nom. Elle s'adossa au mur pour m'attendre. Je me mis en face d'elle et lui dis aussitôt « Écoutez, Augusta, voulez-vous que nous nous marions tous les deux ?» La proposition était vraiment rude. C'est elle que je devais épouser et elle devait m'épouser. Je ne demandais pas ce qu'elle pensait et je ne pensais pas que ce pourrait être à moi de donner des explications. Je faisais ce qu'on attendait de moi après tout. Elle leva les yeux, des yeux dilatés d'effarement. Celui qui louchait était plus différent de l'autre que d'habitude. Ses joues veloutées et blanches pâlirent d'abord, puis brusquement s'empourprèrent. De sa main restée libre, elle saisit le verre qui dansait sur le plateau. Avec un filet de voix, elle me dit « Vous plaisantez et cela n'est pas bien ». Craignant qu'elle se mît à pleurer, j'eus la singulière idée de la consoler en lui parlant de ma tristesse. « Je n'ai pas le cœur à plaisanter, » fis-je, sur un ton triste et sérieux. J'ai demandé à Ada d'être ma femme, puis je l'ai demandé à Alberta. Elles m'ont repoussé toutes les deux, Alberta gentiment, Ada avec colère. Je leur en veux ni à l'une ni à l'autre, seulement je me sens très très malheureux. Devant ma douleur, Augusta se reprit. Elle me regardait tout émue, absorbée dans ses réflexions. Ses regards étaient comme une caresse, mais je n'en éprouvais aucun plaisir. « J'aurai donc à savoir et à me rappeler que vous ne m'aimez pas, » demanda-t-elle. Que signifiait cette phrase sibylline ? Le prélude d'un consentement ? Elle aurait à se rappeler durant toute la vie que nous passerions ensemble. J'étais dans le sentiment d'un homme qui, pour se tuer, s'est mis dans une position périlleuse et se voit réduit à peiner pour en sortir. N'aurait-il pas mieux valu que je sois repoussé encore par Augusta ? Je serais revenu chez moi sain et sauf. Chez moi, dans mon petit bureau, où le même jour, je ne m'étais pas senti trop mal. Je répondis « Oui, je n'aime qu'Ada, mais je vous épouserai. » J'allais ajouter que je ne pouvais me résigner à devenir un étranger pour Ada et que je me contenterais de devenir son beau-frère. Cela aurait été excessif et Augusta aurait pu croire que je voulais me moquer d'elle. Aussi, je dis simplement « Je ne puis me résigner à vivre seul. » Elle restait encore adossée au mur. Peut-être avait-elle besoin de ce soutien, mais elle était déjà plus calme et tenait d'une seule main son plateau. Étais-je encore un homme libre ? En ce cas, je devais quitter ce salon. Où pouvais-je y rester et alors je devais me marier ? J'étais impatient de sa réponse. Comme elle ne venait pas, je poursuivis. « Je suis un bon diable et je crois qu'on peut vivre facilement avec moi, même sans un grand amour. » C'était une phrase que j'avais préparée pour Ada au cours des longues journées précédentes. Elle devait la décider à m'épouser sans éprouver pour moi un grand amour. Augusta haletait légèrement et ne répondait toujours pas. Ce silence pouvait avoir la signification d'un refus, d'une délicatesse extrême. Pour un peu, j'aurais fui. J'avais encore le temps de mettre mon chapeau sur la tête d'un homme sauvé. C'est alors qu'Augusta se dressa, résolue, abandonnant l'appui de la cloison avec un mouvement plein de dignité que je n'ai jamais oublié. Dans le corridor étroit, elle se rapprocha encore de moi qui me trouvais en face d'elle. Vous, Zeno, vous avez besoin d'une femme qui veuille vivre avec vous et vous assister. Je veux être cette femme. Elle me tendit une main potelée que je baisai instinctivement. Il n'y avait plus autre chose à faire. Je dois avouer aussi qu'à ce moment-là, je fus envahi par une sorte de satisfaction qui me dilata la poitrine. Il ne me restait rien à décider. Tout était réglé. Je l'avais, la pleine lumière. C'est ainsi que je me suis fiancé. Aussitôt, on nous fit fête. Tout le monde applaudissait. Giovanni Malfanti m'embrassa et se mit à me tutoyer. « Depuis longtemps, me disait-il avec une expression exagérément affectueuse, je me sentais un cœur de père pour toi. Oui, depuis que j'ai commencé à te donner des conseils pour ton commerce. » Ma future belle-mère me tendit sa joue que j'effleurai. Puis elle embrassa Augustin et la grandeur de son amour maternel s'exprima en un sanglot qui interrompit un instant les manifestations de sa joie. Je ne pouvais souffrir la signora Malfanti, mais je dois dire que ce sanglot, au moins pour cette soirée, colora mes fiançailles d'une lumière sympathique. Alberta me serra la main rayonnante. « Je veux être une sœur pour vous. » Et Ada, « Bravo, Zeno. » Puis à voix basse, « Sachez-le, jamais homme croyant avoir fait une chose avec précipitation n'a agi plus sagement que vous. » Retrouvons Zeno quelques mois après son mariage, tiraillé entre sa femme et sa maîtresse. Contre toute attente, Zeno découvre avec Augusta le bonheur conjugal. Douce et aimante, son épouse est la santé personnifiée et sa présence l'apaise. Il semble guéri de son amour pour Ada et passe même pour le mari idéal aux yeux de sa belle famille. Mais bien vite, son instinct de séducteur le conduit à prendre pour maîtresse une jeune chanteuse de condition modeste prénommée Carla. Écartelé entre le désir et la culpabilité, Zeno, qui vient de quitter sa maîtresse pour rejoindre sa femme, a la conscience troublée comme en témoigne bientôt son sommeil agité. Je commençais vraiment à souffrir. Entre Augusta et moi, il y avait cette aventure, comme une grande ombre noire que, me semblait-il, elle ne pouvait pas ne pas voir. Je me sentais chétif, coupable et malade. Ma douleur aux côtés me faisait souffrir et j'avais la sensation qu'elle réverbérait la grande blessure de ma conscience. Tandis que distraitement, je faisais semblant de manger, je cherchais le soulagement d'une résolution de faire. Je pensais... Je ne la reverrai plus, ou si par convenance il me faut la revoir, ce sera pour la dernière fois. Puis je trouvais mieux encore. Cette petite buanderie qu'Augusta désirait tant et que je lui avais toujours refusée, je permis tout à coup de la construire. Elle en fut si émue qu'elle se leva et vint m'embrasser. Ce baiser évidemment effaçait le précédent avec Carla et je me sentis beaucoup mieux. C'est ainsi que nous eûmes la buanderie, et aujourd'hui encore, en passant devant cette minuscule construction, je me souviens que c'est Augusta qui l'a voulu et Carla qui l'a accordé. L'après-midi qui suivit fut délicieux, sans un nuage. Dès que j'étais seul, ma conscience devenait plus importune. Les paroles et l'affection d'Augusta avaient le pouvoir de l'apaiser. Le soir, comme souvent avant de m'endormir, je regardais longuement ma femme qui dormait déjà. Elle respirait légèrement et même dans son sommeil, tout en elle était ordonné. La couverture bien tirée jusqu'au menton, les cheveux peu abondants réunis en une petite tresse qu'elle nouait sur la nuque. Je pensais, je ne veux pas la faire souffrir, jamais. Et je m'endormis tranquillement. Le lendemain, mes rapports avec Carla seraient tirés au clair. Je trouverais bien un moyen de rassurer la pauvre enfant sur son avenir sans être pour cela obligé de l'embrasser. Je fis un rêve bizarre. Non seulement je baisais le cou de Carla, mais je le mangeais. Cependant, il était fait de telle sorte que malgré les blessures que je lui infligeais avec une volupté rageuse, il ne saignait pas. Sous une peau blanche et lisse, il conservait sa douce forme arrondie. Carla, abandonnée dans mes bras, ne semblait pas souffrir de mes morsures. Celle qui en souffrait, c'est Augusta, qui soudain se trouvait là, je ne sais comment. Je lui disais, pour la calmer, « Je ne mangerai pas tout, je t'en laisserai un morceau pour toi aussi. » Ce rêve n'eut les caractères d'un cauchemar qu'au moment où je me réveillais, en pleine nuit, et où je pus l'évoquer dans mon esprit sorti des brumes. Mais pas avant. Aussi longtemps qu'il dura, la présence même de ma femme ne put rien contre le sentiment de satisfaction qu'il me procurait. À peine éveillé, j'eus la pleine conscience de la force de mon désir et du danger qu'il présentait pour Augusta et aussi pour moi. Elle savait déjà que je serais sa proie. J'en fus terrifié et là, seul dans l'obscurité, je ne pus retenir un gémissement. Ma femme, réveillée en sursaut, me demanda ce que j'avais. À peine remis de la frayeur de me voir interrogé au moment même où il me semblait avoir crié un aveu, je répondis par les premiers mots qui me vinrent à l'esprit. Je pensais à la vieillesse qui menace. Elle se mit à rire, et tout en reprenant son sommeil interrompu, elle murmura pour me consoler la phrase qu'elle me disait toujours quand elle me voyait effrayée par la fuite du temps. « N'y pensons pas, tant que nous sommes jeunes. Ah, c'est si bon de dormir !» Un an plus tard, suivons Zeno côté jardin pour une théâtrale scène d'adieu avec Carla. Velléitaire accomplie, Zeno, aujourd'hui papa d'une petite Antonia, songe à quitter sa maîtresse depuis un moment sans s'y résoudre. C'est finalement la jeune femme qui prend l'initiative de la rupture en lui donnant rendez-vous dans un parc afin d'éviter toute intimité entre eux. Carla se destine à épouser son professeur de chant, ce qui rend Zeno fou de jalousie. Et il la trouve, sur le point de lui échapper, plus désirable que jamais. Lorsque Carla vint à ma rencontre, elle m'aborda sans un sourire, avec un air de ferme résolution sur ses jeunes traits pâlis. Son vêtement, très simple, d'une grosse toile à raies bleues, lui allait très bien. Elle semblait vraiment faire partie du jardin. Elle me tendit sa main que je serrai en disant « Je te remercie d'être venue ». Carla paraissait très émue. Elle avait en parlant une sorte de mouvement convulsif qui faisait trembler sa lèvre. « Zeno, me dit-elle doucement, n'avons-nous pas promis de ne plus nous revoir ? Aussi me suis-je engagée maintenant avec mon fiancé, comme tu étais engagée toi-même avant de me connaître. Cet engagement est aussi sacré que le tien. J'espère qu'à cette heure, ta femme a pu s'apercevoir que tu lui appartenais tout entier. » Je m'efforçais de parler avec calme, bien que je sentisse moi aussi mes lèvres trembler, mais de désir. Elle ne savait pas, lui dis-je, à quel point elle était mienne et n'avait plus le droit de disposer d'elle. « Quels engagements peux-tu donc avoir pris ? Quelle importance peuvent-ils avoir comparé à un amour comme celui qui nous lie depuis plus d'un an ? » Je lui saisis rudement le poignet pour suppléer par un geste énergique aux mots qui ne me venaient pas, mais elle se dégagea avec autant de violence que si j'avais osé la toucher pour la première fois. Puis elle leva la main comme pour prêter serment. « Jamais je n'ai pris, dit-elle, un engagement plus sacré qu'avec cet homme. » Il n'y avait plus à douter. Le sang qui lui monta subitement au visage exprimait son ressentiment pour l'homme qui ne lui avait rien promis, moi. Et elle s'expliqua plus clairement encore. « Hier, nous sommes sortis ensemble. Nous avons marché dans la rue au bras l'un de l'autre, et sa mère était avec nous. » La chose était évidente. Ma maîtresse m'échappait et elle s'enfuyait toujours plus loin de moi. Et moi, comme un chien à qui on dispute un savoureux morceau de viande, je courais, éperdu, derrière elle. Je repris sa main brutalement. « Eh bien, proposais-je, marchons ensemble nous aussi, la main dans la main, traversons toute la ville, prenons la Corsia Stadion, puis les arcades de Chiozza, et tout le long du Corso jusqu'à Sant'Andrea, afin que toute la ville nous voie. » Pour la première fois, je renonçais à Augusta. Et ce reniement me parut une libération. Carla s'arracha de nouveau à mon étreinte et répondit sèchement « Ce sera à peu près le même tour que nous avons fait hier. » J'eus encore un sursaut de colère. « Et lui, est-ce qu'il sait ? Est-ce qu'il sait tout ? Sait-il qu'hier encore tu as été à moi ?»« Oui, dit-elle orgueilleusement, il sait tout, absolument tout. » Je me sentis perdu. Et dans ma rage, je fis comme le chien qui, ne pouvant saisir le morceau convoité, mord les vêtements de celui qui l'en a frustré. « Ce fiancé, dis-je en ricanant, a l'estomac solide. Aujourd'hui, c'est moi qui le digère. Il pourra digérer demain tout ce que tu voudras. » Je ne me rendais pas bien compte de la portée de mes paroles. Je ne pouvais que crier de douleur. Elle eut un éclair d'indignation dont je n'aurais pas cru capable ses 12 yeux bruns de gazelle. Elle me tourna le dos et se dirigea d'un pas rapide vers la sortie du jardin. Je sentais déjà le remords des mots que je lui avais dits et restais cloué sur place en regardant sa petite silhouette blanche et bleue s'enfuir au loin.
Cadono giù, passano come soffiate dal vento. Tornano su, giocano senza conoscere il piano dove vanno. Sognano, ridono, corrono come fa il tempo. Tornano, tremano, si rialzano dal pavimento perché è freddo. Le mie parole sono aria, non c'è vita, non c'è senza te.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Penchons-nous enfin sur le sort de Guido et Ada, désormais mari et femme. 4 années ont passé depuis le mariage de Zeno, suivi de près par celui d'Ada. Mais si Zeno découvre avec surprise le bonheur conjugal auprès de la bien nommée Augusta, Ada déchante vite avec son amoureux. Éreintée par la naissance de ses jumeaux, elle tombe malade et son mari en profite pour batifoler avec sa dactylo. Non content d'être volage, Guido se révèle un calamiteux homme d'affaires bientôt au bord de la faillite. Acculé, Guido ne voit d'autre issue que de simuler une tentative de suicide pour contraindre sa femme à renflouer ses comptes. Zeno rend visite à son beau-frère, pseudo-convalescent, lorsqu'Ada demande à lui parler. Voyons comment, par un étonnant retournement de situation, Zeno passe du pathétique séducteur au meilleur des hommes. Nous étions debout, face à face, dans le petit salon où l'on m'avait fait attendre à mon arrivée. J'écoutais son souffle haletant et la pensée me vint que peut-être elle m'avait entraîné dans ce réduit obscur pour me réclamer l'amour que je lui avais offert. Dans l'ombre, ses grands yeux étaient terribles. Plein d'angoisse, je me demandais ce que je devais faire. Fallait-il la prendre dans mes bras pour qu'elle n'ait rien à me demander ? En une seconde, une foule de possibilités m'apparurent. Ada me saisit la main. J'eus un frisson. Une femme promet bien des choses quand elle tend la main. J'ai toujours senti cela. Tenir une main, c'est presque tenir une femme tout entière. La différence de nos tailles fit que je me penchais sur elle comme pour l'embrasser. J'eus l'impression d'un intime contact. Elle ajouta « Je vais être obligée de retourner tout de suite à Bologne pour me soigner, et ce sera un soulagement pour moi de te savoir auprès de lui. » « Je resterai avec lui, » répondis-je avec un air de résignation dont Ada dut croire qu'il se rapportait au sacrifice que je consentais à faire. Mais j'étais en train de me résigner en réalité à reprendre la plus commune des existences puisqu'elle refusait de me suivre vers cette vie exceptionnelle dont j'avais rêvé. Je fis un effort pour redescendre sur terre. Je ne voulus pas sortir de cette pièce sans lui dire encore un mot. Je murmurais « Tu as fini par épouser un homme encore plus bizarre que moi, Ada. » Elle répondit tout bas « C'est vrai. » Puis en souriant affectueusement « Mais je suis heureuse pour Augusta que tu sois tellement meilleure que je n'avais cru. » Puis avec un soupir « Si heureuse que cela atténue un peu mon chagrin que Guido ne soit pas celui que j'espérais. » Je me taisais toujours dans le doute. Ne venait-elle pas d'avouer que j'étais devenue telle qu'elle aurait souhaité que fût Guido ? Était-ce donc de l'amour ?
Elle dit encore « Tu es le meilleur homme de notre famille, toute notre confiance, tout notre espoir. » Elle me saisit la main une seconde fois et moi je la serrai trop fort peut-être, car très vite elle la retira. Ainsi mon doute s'évanouit. Et dans le demi-jour de cette petite chambre, je compris quelle devait être ma ligne de conduite. Ada, comme pour corriger son geste un peu brusque, m'adressa une dernière caresse. « Et maintenant que je te connais mieux, je regrette beaucoup de t'avoir fait souffrir. As-tu vraiment tant souffert ?» Les yeux tendus vers l'ombre de mon passé pour retrouver cette douleur, je répondis « Oui. » Approchons de la fin avec les adieux d'Ada à Zeno. Décidément irresponsable en affaires, Guido se met une seconde fois dans une posture désastreuse et ne trouve d'autre échappatoire que de se donner la mort pour de bon. Zeno fait un magistral acte manqué en ratant les obsèques de son beau-frère. Ada y voit le signe de sa jalousie envers Guido et du désamour de sa famille pour son époux. Elle décide alors de quitter l'Europe définitivement et part rejoindre sa belle famille établie en Argentine. Traversé par le sentiment que tout lui échappe, Zeno assiste impuissant à cet ultime abandon. Écoutons les dernières paroles que lui adresse Ada juste avant son départ pour Buenos Aires. Au moment où elle s'embarqua, tenant dans ses bras un de ses enfants légèrement malade, elle me donna un baiser. Puis, comme personne d'autre que moi ne pouvait l'entendre, elle me dit « Guido ne fut aimé par personne, le malheureux. Adieu, Zeno. Je me rappellerai toujours que je n'ai pas su l'aimer comme j'aurais dû. Il faut que tu le saches, je quitte volontiers mon pays. Il me semble que je m'éloigne de mes remords. » Je lui reprochais de se torturer ainsi. Je lui déclarais qu'elle avait été une bonne épouse, que je le savais et que je pouvais en témoigner. J'ignore si je réussis à la convaincre. Secouée de sanglots, elle ne prononça plus une parole. Je compris longtemps après qu'à l'heure de son départ, elle avait voulu renouveler les reproches qu'elle m'avait adressés au lendemain de la mort de son mari. Mais je sais qu'elle m'a jugé à tort. Le reproche de n'avoir pas voulu le bien de Guido, je suis certain de ne pas le mériter. Le temps était trouble, le jour sombre. Le ciel tout entier paraissait tendu d'un voile gris. Un gros bateau de pêche dont les voiles pendaient inertes le long des mâts essayait de sortir du port à force de rames. Au large, peut-être trouverait-il une brise favorable. Ada, du tiac du paquebot, saluait en agitant son mouchoir. Soudain, elle se retourna. Elle regardait sûrement vers le cimetière de Sainte-Anna, où reposait son mari. Sa silhouette élégante retrouvait tout son charme à mesure qu'elle s'éloignait. J'eus les yeux obscurcis par les larmes. Voilà qu'elle nous abandonnait et que jamais plus je ne pourrais lui prouver mon innocence.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia avec Olivier Dupré à la technique, a été préparée par Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.